Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée au Père de l'Église. Nous avons commencé à découvrir la figure de Denis l'Aréopagite la semaine dernière à propos notamment des hiérarchies célestes et terrestres. Nous poursuivons aujourd'hui avec un traité, un écrit important, le traité des noms divins.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour Jean.
Bonjour Amaury.
On poursuit avec vous cette découverte de Denis l'Aréopagite. Vous nous aviez prévenu, ça vole haut. Et alors on poursuit aujourd'hui avec le traité des noms divins. Il a consacré vraiment tout une étude, un travail sur ce sujet du nom de Dieu.
Oui, pour Denis, nommer Dieu, c'est pas une expression universitaire. Nommer Dieu, c'est l'invoquer ou le louer. Donc c'est une prière. Mais ne pas le nommer, c'est aussi un mystère du silence. Et les deux voies, c'est-à-dire le silence et la prière de louange, sont deux voies pour conduire à l'union. Alors, Denis va expliquer les dénominations empruntées à l'ordre de l'intelligence et à l'ordre des sens que la Bible applique à Dieu. Alors il y a des noms uniquement bibliques, hein, unité, trinité, justice, salut, rédemption, etc. Mais aussi des noms qui viennent aussi de la philosophie grecque, le bien, le beau, l'amour, l'être, la vie, la sagesse. Et Denis va proposer également comme nom divin des couples de termes opposés, égal, inégal, grand, petit, même et autre, semblable, dissemblable, repos et mouvement. Pour montrer que dans ces contraires, Dieu est un dépassement de tout nom, en fait, au-delà des contraires. Il écrit « Aucune raison ne peut discourir de l'un qui dépasse tout discours. Aucune parole ne peut exprimer le bien qui est au-dessus de toute parole. Unité unificatrice, essence suressentielle, intelligence intelligible, parole ineffable, cause ontologique de tout être, et en même temps, parce qu'elle est située au-delà de tout être, totalement exclue de la catégorie de l'être, selon la révélation qu'elle fait d'elle-même. »
En fait, Denis part de ce postulat qu'à la fois Dieu crée et se révèle à l'homme et qu'en même temps, personne n'a jamais vu Dieu.
Donc, voilà.
Tantôt on peut nommer, tantôt on ne nomme pas.
Il va utiliser la dialectique néoplatonicienne dont on a parlé déjà à la précédente émission. D'une part, la procession, Dieu vers le monde. Donc on peut tout affirmer de Dieu et lui donner une multiplicité, voire une infinité de noms. Et dans le sens de la conversion, c'est-à-dire le retour vers Dieu, on peut tout nier de lui et lui refuser tout nom. Mmh. Dieu est sans nom, il est anonyme, il est au-delà de tout nom. Alors, Denis va éviter, on l'a déjà dit, tous les exposés habituels christologiques et les risques de discussion, unité, trinité, nature et personne, etc. Il va se placer uniquement dans la perspective mystique de la contemplation de Dieu et de l'union à lui. En refusant d'enfermer Dieu dans ses noms, et il a ces phrases assez incroyables, « La divinité qui est au-delà de tout n'est ni unité, ni trinité, ni nombre, ni unité, ni fécondité, ni rien d'autre qui appartienne aux êtres ou soit connu de ces êtres. Dieu n'est ni un, ni unité, ni divinité, ni bonté, ni esprit, au sens où nous entendons ces termes. Il n'est ni fils, ni père, ni rien d'autre que nous-mêmes ou tout autre pourrions connaître. »
Il dit ça pour dire que Dieu demeure de toute façon un mystère qui nous est inaccessible.
Absolument. Sachant qu'il respecte les noms divins donnés par l'Église. Il dit « Nous donnons à Dieu à la fois un nom divin qui exprime la Trinité et l'unité, à lui qui est au-delà de tous les noms. » Il ne met pas en cause, bien entendu, le dogme de l'Église, mais il essaye de pousser l'intelligence vers le maximum. Et de même pour l'incarnation. Il dit « Dieu s'est communiqué à notre nature par l'une de ses personnes, appelant et haussant jusqu'à elle la bassesse de l'homme, que Jésus, sans composition, assuma indiciblement. L'Éternel reçoit ainsi une extension temporelle et s'insère par sa naissance jusqu'au fond de notre nature. » Lui qui échappe suressentiellement à tout ordre naturel, et cela tout en conservant immuable et sans mélange tout ce qu'il possède en propre. Ouais. Ce sont des paroles qu'on va retrouver chez des mystiques chrétiens ultérieurs.
Et il y a ce sujet après du symbole chez Denis qui justement permet de progresser, d'essayer de dire quelque chose du mystère tout en reconnaissant qu'on ne le dit pas.
Voilà, c'est le symbole, c'est la clé. Alors, il dit le sensible, le symbole sensible, ne fait pas obstacle à la manifestation de Dieu, mais au contraire va la rendre possible. Le symbole révèle, parce qu'il est sensible, et puis parce que nous sommes à la fois intelligibles et sensibles. Et le sensible devient alors un lieu d'ouverture au monde. C'est un lieu de dévoilement. Pour Denis, la contemplation de Dieu est aussi une contemplation du monde. Et le symbole efficace, c'est un symbole dévoilé. Et c'est l'âme humaine qui opère le dévoilement, hein, en se tournant vers le haut. Et c'est une purification. Seule l'âme qui a compris son incapacité à être comblée par la seule sensibilité peut s'ouvrir au symbolisme. Et le symbole permet l'acquisition d'un regard renouvelé sur le sensible. Pour Denis, c'est ça le sens de l'incarnation, le sommet de l'amour de Dieu pour l'homme. Il écrit « À travers les voiles sacrées dont se recouvre la transmission des paroles saintes et des traditions hiérarchiques, l'amour de Dieu pour l'homme enveloppe l'intelligible dans le sensible, le suressentiel dans l'être, et à travers une variété de symboles partiels, multiplie et figure l'infigurable et merveilleuse simplicité. » Il prend par exemple l'exemple du feu. Le feu est en toute chose, il s'insinue en toute chose, mais il est séparé de toute chose, il est lumineux, il est caché, et il est inconnaissable en soi, il se manifeste dans les matières qui l'enflamment. Et donc, cette invisibilité du feu rend cependant possible toute visibilité. Il ne subit aucune perte, bien qu'il ne cesse de se communiquer. Et alors, donc, pour Denis, le feu, l'eau, l'air font partie d'un symbolisme. Mais il dit « attention ». La présence aussi intime de Dieu au cœur du monde n'est pas sans danger. Il y a un risque de complaisance intellectuelle ou esthétique, de sensualisme ou même d'idolâtrie. Et le risque le plus grand, paradoxalement, il réside dans l'emploi de noms liés, de noms intelligibles pour désigner Dieu. Et il dit « Je ne pense pas qu'aucun homme sensé puisse en disconvenir. Les figures sacrées de la nature la plus élevée conduisent en erreur plus d'un homme, car elles poussent à imaginer les êtres spirituels comme des figures. » Donc attention à ne pas philosopher et à ne pas rendre Dieu dans des concepts. Ce risque d'échec au symbole noble conduit Denis à préférer un symbolisme dissemblable. Donc il faut désigner Dieu par des réalités les plus modestes, les plus grossières et même les plus monstrueuses. Le symbolisme dissemblable nous fait saisir le caractère symbolique du sensible et empêche par sa négativité apparente toute saisie de Dieu.
Il pousse vraiment le sujet jusqu'au bout, même si ça paraît un peu paradoxal.
Oui, il va être dans l'optique de qu'on a déjà vu avec Origène, quand Origène commente l'Ancien Testament pour expliquer toutes les passages de l'Ancien Testament qui paraissent incompréhensibles, voire horribles, pour dire que justement c'est le propre de Dieu d'être au-delà de toute compréhension.
Alors, comme on le disait la semaine dernière par rapport à la liturgie, justement, qui fait ce lien, l'enjeu à travers tout ça, c'est de vivre, de retrouver l'union avec Dieu.
Et cette union avec Dieu, elle va se traduire par deux mouvements dans l'âme. Un mouvement que Denis va appeler longitudinal, d'élévation vers Dieu, et un mouvement circulaire de l'âme. Et il va écrire... L'âme se meut d'un mouvement longitudinal lorsque, plutôt que de rentrer en soi et de tendre à l'union intelligible, elle se tourne vers les réalités qui l'entourent et prend appui sur le monde extérieur comme sur un ensemble complexe de multiples symboles pour s'élever à des contemplations simples et unifiées. Mais l'âme se meut d'un mouvement circulaire lorsque, rentrant en elle-même, elle se détourne du monde extérieur lorsqu'elle rassemble en les unifiant ses puissances d'intellection dans une concentration qui les garde de tout écartement, lorsqu'elle se détache de la multiplicité des objets extérieurs pour se recueillir d'abord en elle-même, puis ayant atteint l'unité intérieure, ayant unifié de façon parfaitement une ses propres puissances, elle est conduite alors à ce beau et bien qui transcende tout être, sans principe et sans fin. Alors, bon, on voit que pour Denis, cette union à Dieu, c'est une divinisation. Mais attention, pour Denis, ceux qui sont unis à Dieu ne sont pas devenus Dieu. Ils sont devenus entièrement la propriété de Dieu. Donc, c'est, il dit, cette union seule qui nous ouvre l'entrée dans les mystères divins, et non pas selon nos modes humains, mais en sortant tout entier de nous-mêmes pour appartenir tout entier à Dieu. Car il vaut mieux appartenir à Dieu et se dépouiller de soi-même. C'est ainsi que les dons divins seront offerts à ceux qui sont entrés en communion avec Dieu.
Et ça, c'est le rôle de la prière. C'est par la prière que l'âme se rend présente à Dieu.
Oui, Denis va écrire, c'est vers la Trinité qu'il nous faut, avant tout, faire monter nos prières, comme vers le principe du bien, pour recevoir l'initiation des dons parfaitement bons qui résident en elle. Car s'il est vrai que que Dieu est présent en tout être, par contre, ne réside pas en lui. Mais c'est en suppliant Dieu par de très saintes prières, par une intelligence exempte de troubles et de la façon qui convient à l'union divine, que nous aussi nous résiderons en elle. Et il utilise une image, « Efforçons-nous donc par nos prières de nous élever jusqu'à la cime de ces rayons divins et bienfaisants, de la même façon que si nous saisissions pour l'entraîner constamment vers nous de nos deux mains alternées une chaîne infiniment lumineuse qui pendrait du haut du ciel et descendrait jusqu'à nous, nous aurions l'impression de la tirer vers le bas. Mais en réalité, notre effort ne saurait la mouvoir, car elle serait tout ensemble présente, en haut et en bas, et c'est plutôt nous qui nous éleverions vers les plus hautes splendeurs. C'est pourquoi, particulièrement s'il s'agit de théologie, il faut commencer par des prières, non pour attirer à nous cette puissance qui est tout ensemble présente partout et nulle part, mais pour nous remettre entre ses mains et nous y réunir à elle par des célébrations et des invocations divines.
Précieuses précisions et conseils pour nos amis théologiens. Merci Jean Charmois, à la semaine prochaine.